السلام عليكم. الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أجارني الله وإياكم من النار. ثم أما بعد، أيها المسلمون، donc aujourd'hui on n'a pas de micro, donc si il y a un problème de son, essayez peut-être de vous rapprocher pour faire en sorte que vous entendiez convenablement. Donc on s'est arrêté la dernière fois dans la bataille de Uhud. Aux étendards, aux deux étendards, l'étendard des musulmans, ce qu'il est advenu de lui et de son porteur, et l'étendard des idolâtres, et ce qu'il est advenu de leur porteur. On a expliqué que concernant l'étendard des musulmans, au moment où les archers quittent leur poste et que Khalid ibn al-Walid arrive avec la cavalerie à arriver par derrière, Mus'ab ibn Umair, radiallahu anhu, qui est le porteur de l'étendard du côté musulman, il est tué par les idolâtres. Et l'étendard reste à terre. Parce qu'à ce moment-là, on a expliqué qu'il y a une grande confusion, donc l'urgence n'est pas, et la priorité n'est pas qui va prendre l'étendard, mais l'urgence est de comprendre ce qui se passe et de trouver une solution. Puisque le point de basculement vient d'avoir lieu entre le moment où les musulmans étaient en train de gagner la bataille et le moment où tout a basculé et tout s'est retourné contre eux. Et côté idolâtre, on a une femme qui récupère l'étendard qui est resté un long moment à terre, puisque plusieurs personnes ont tenté de le prendre, ils ont été tués en duel. Et donc l'étendard des idolâtres, il est resté à terre jusqu'à ce que ce soit une femme idolâtre, Amrato Binto Alqama, qui prend l'étendard et le brandit haut dans le ciel. Et donc ça va contribuer à inciter, à galvaniser encore plus les idolâtres qui vont former un noyau autour d'elle pour défendre l'idolâtre, pour défendre l'étendard et pour la défendre elle qui porte l'étendard. Ensuite, on a également parlé de la mort d'un compagnon, le compagnon Husayl ibn Jabir, radiyallahu anhu. On a expliqué que Husayl ibn Jabir, comme nous l'a rapporté un hadith, il y avait lui, c'est un vieil homme. On avait dit que Husayl ibn Jabir, c'est le père du compagnon Hudhayfa ibn al-Yaman. Husayl ibn Jabir, qu'on appelle aussi, qu'on surnomme Al-Yaman, qui est le père du compagnon Hudhayfa ibn al-Yaman, il n'est pas parti à la bataille de Uhud. Il n'est pas censé y participer. Il est resté à Médine et qu'au début de la bataille, il va sortir à la périphérie de Médine et se poster sur les dunes pour essayer de voir au loin ce qui se passe à Uhud. Il est lui et un autre vieil homme, Thabit ibn Waqsh, Ibn Zurba et Ibn Zaoura. Ils sont deux personnes âgées sur ces dunes. C'est ce qu'on a dit. Et on a expliqué que l'un des deux va dire à l'autre, qu'est-ce qu'on fait ici? Parce qu'ils vont regarder autour d'eux et en fait, ils vont se rendre compte qu'ils sont les deux seuls hommes. Il n'y a que des femmes et des enfants qui sont là sur les dunes en train d'essayer de voir ce qu'il advient de leurs combattants, de leur famille, de leurs époux, de leurs pères, de leurs frères, etc. Et donc, ils se disent, mais qu'est-ce qu'on fait ici? Alors qu'ils ont une bonne raison, ce sont deux vieils hommes qui n'ont plus la force de combattre. Et donc finalement, ils vont décider, surtout en voyant ce qui se passe, la bataille, etc., ils vont décider de rejoindre la bataille. Et ils vont rejoindre la bataille au moment de la confusion, au moment où la cavalerie de Khalid ibn al-Walid va réussir à franchir le passage qu'il y a entre le mont des archers et la montagne de Uhud. Il y a un petit passage, et c'est par là qu'il réussit à passer, puisqu'il n'est plus défendu par les archers. Et donc il arrive, il fonce sur l'armée des musulmans par derrière. Husayl ibn Jabir, il arrive à ce moment-là. Et il va être tué, parce que les gens ne vont pas le reconnaître, et parce que c'est la confusion. Et alors que le prophète Hassan voudra, à la fin de la bataille, payer des dommages, un dédommagement à Hudhayfa ibn al-Yaman pour la mort par erreur de son père, Hudhayfa ibn al-Yaman va leur pardonner et il n'acceptera pas l'argent. Yarni, il la donnera en aumône. Il la dira que les musulmans la gardent. Yarni, sous-entendu, je leur pardonne. Et aujourd'hui, on va s'intéresser quand même à quelque chose qu'on a mis de côté la semaine dernière et on n'aurait probablement pas dû. Et de toute façon, on n'aurait pas eu le temps de le voir, c'est que dans ce hadith, on a dit qu'il nous est, il y a deux personnes qui sont citées. On a parlé de Husayl ibn al-Yaman, Husayl ibn Jabir, le père du compagnon Hudhayfa ibn al-Yaman. Et on a cité brièvement l'autre qui était avec lui, le deuxième vieil homme. On a dit, selon cette version qu'on a citée la semaine dernière, il s'appelle Thabit ibn Waqsh. Et on a dit à son sujet que lui, il n'a pas été tué, entre guillemets, par les musulmans. Ce n'est pas une flèche perdue qui l'a tué. Mais c'est les idolâtres qui l'ont tué. Et on ne s'est pas attardé sur cet homme. Cet homme, il y a divergence au niveau de son nom, ou plutôt au niveau du nom de son père. Certains l'appellent Thabit ibn Waqsh. C'est le nom qu'on lui a donné, qui lui est donné dans la version de la semaine dernière. Dans d'autres versions, on trouve qu'il s'appelle Thabit ibn Uqaysh au lieu de ibn Waqsh. Et dans d'autres versions, on trouve Thabit ibn Uqaysh. Il y a ibn Waqsh, ibn Uqaysh avec l'alif, l'hamza, et ibn Uqaysh avec le waw. Donc, ce n'est pas important. Mais ce qui est important ici, c'est juste que si vous rencontrez dans des versions différentes que certains l'appellent ainsi ou d'une autre manière, Al-Muhim, les trois correspondent à la même personne. Et il a même un surnom. Plutôt le surnom, c'est autre chose. Donc ça, c'est cet homme. Et il a un lien de parenté, on ne l'a pas dit la semaine dernière, avec le père de Hudhayfa ibn al-Yaman. Puisqu'il est marié avec la sœur du père de Hudhayfa ibn al-Yaman. Donc en fait, c'est deux vieils hommes qui se retrouvent avec les femmes et les enfants sur les dunes et qui se disent l'un à l'autre, qu'est-ce qu'on fait ici? Rejoignons-les. Ils sont tous les deux des beaux-frères. Husayl ibn Jabir qui va être tué par erreur par les musulmans, sa sœur et l'épouse de Thabit ibn Waqsh. Donc il y a cet élément qui est important de savoir. Et l'autre élément qui est important de savoir, donc, par rapport au compagnon Hudhayfa ibn al-Yaman, Husayl, c'est son père, et Thabit ibn Waqsh, c'est le mari de sa tante. Certains appellent les maris des tantes, ils disent c'est mon oncle. C'est pas l'oncle direct, mais on va dire c'est l'oncle par alliance, c'est le mari de la tante. Taïb. Et donc, cet homme, Thabit ibn Waqsh, quand on parle de lui, on est obligé de parler d'une autre personne, c'est-à-dire de son fils. qui lui aussi, son fils, n'est pas censé participer à la bataille de Uhud, et pourtant il va y mourir. Ajib. On a une série de compagnons, on a cité Husayl ibn Jabir la semaine dernière, il n'est pas censé y participer, on le retrouve mort à Uhud. Donc finalement il a participé, on a expliqué pourquoi, ce qui s'est passé entre temps. On a le compagnon Thabit ibn Waqsh, donc le beau-frère de Husayl ibn Jabir, lui aussi, il n'était pas parti pour y participer. Finalement, il participe à la bataille d'Uhud et il est mort à Uhud. Et on a le fils de Thabit ibn Waqsh, qui est le cousin donc de Hudhayfa ibn al-Yaman, qui lui aussi ne participe pas à la bataille d'Uhud. Et pourquoi il n'y participe pas? Tout simplement parce qu'au moment où l'armée des musulmans part pour Uhud, il n'est pas musulman. Il n'est pas encore converti à l'islam. Alors on a deux versions qui nous parlent de son histoire. Alors d'abord, comment il a appelé cet homme? C'est le fils de Thabit ibn Uqaysh. Ibn Waqsh ou ibn Uqaysh ou ibn Uqaysh, c'est un peu compliqué. Et en fait, lui, son nom, c'est Amr. Donc il s'appelle Amr ibn Thabit ibn Waqsh ou Amr ibn Thabit ibn Uqaysh ou Amr ibn Thabit ibn Waqif. On va s'en sortir, je vous le promets. Et il est aussi surnommé Al-Usayrim. C'est beaucoup de noms. Hein. Il est aussi surnommé, c'est son surnom, Al-Usayrim. Donc certains parlent de lui, Al-Usayrim, et c'est une des raisons pour lesquelles je n'en ai pas parlé la semaine dernière. Maintenant, je savais que je devais parler d'un certain Usayrim, qui n'avait pas participé à la bataille, qui s'est converti entre-temps, qui va y participer, etc. Mais, continuant les recherches depuis la semaine dernière, j'ai finalement découvert dans d'autres versions qu'il s'agit du fils de celui dont on a parlé la semaine dernière. Donc, c'est pour ça que finalement, on parle de lui maintenant, même si, en fin d'épisode de la semaine dernière, j'avais dit on parlera de ceux qui ont fui parmi les musulmans. Finalement, on est obligé d'ouvrir cette parenthèse parce que c'est à ce moment-là qu'il faut parler de lui. Donc, l'Usayrim n'est pas musulman au moment où les musulmans partent pour Uhud. L'Usayrim, Amr ibn Thabit, n'est pas musulman. On a deux versions qui nous parlent de son histoire avec la bataille de Uhud. On avait une version dans le recueil de l'imam Ahmad et on a une version dans Sunan Abi Daoud, le recueil de l'imam Abi Daoud. Et ces deux versions, elles ont été authentifiées par un certain nombre de spécialistes des chaînes de narration, en particulier Ibn Hajar al-Asqalani ou le Barzanji et d'autres encore. Donc son histoire, elle est authentique. Souvent, on nous raconte des histoires, des anecdotes, des détails, et quelquefois, on est obligé de dire qu'elle n'est pas authentique. Celle-ci, dans les deux versions différentes, elles ont été authentifiées. Commençons par la version d'Abu Daoud. Dans cette version, on nous dit أن عمر ابن ثابت أن عمر ابن أقيش كان له ربا في الجاهلية فكره أن يسلم حتى يأخذه. Cette version elle nous dit عمر ابن أقيش. أقيش c'est son grand-père. Normalement, c'est Amr ibn Thabit ibn Uqaysh, mais quelquefois, on peut dire directement le fils d'un tel pour parler du grand-père. Ma'alish, ça, c'est pas important. Donc, cet homme, qu'on surnomme l'Usayrim, Amr ibn Uqaysh, كَانَ لَهُ رِبًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ. Il avait des intérêts, de l'usure, pendant la jahiliya. فَكَرِهَا أَنْ يُسْلِمَ حَتَّى يَأْخُذَهُ. Et donc, il a détesté, il n'a pas voulu se convertir tant qu'il n'avait pas pris tout l'argent de l'usure. Yani, l'islam est arrivé à Al-Madina, et lui, son investissement, son commerce, ses richesses, elles dépendaient de quoi? De l'usure. Il y en a qui travaillaient que dans ça, dans le Jahiliya, ils faisaient des crédits, etc. Et avec de l'usure, c'est comme ça qu'ils gagnaient leur vie. Et donc, lui, il s'est dit, si je me convertis à l'islam, selon cette version, je devrais tout de suite arrêter. Donc, il a voulu gagner du temps. Naam. Attends un petit peu et après je me convertirai et j'arrêterai tout ça. Aïwa. À tel point que certaines versions nous disent que donc lui il vient de la tribu des Bani Abd al-Ashhal, que toute la tribu des Bani Abd al-Ashhal était à ce moment-là était convertie à l'islam. Parce qu'on sait qu'à Médine, il y en avait encore certains qui n'étaient pas convertis à l'islam, mais en tout cas dans la tribu des Bani Abd al-Ashhal, tous étaient convertis à l'islam, sauf lui. Donc là, on comprend pourquoi il n'était pas encore converti à l'islam. Et ensuite, cette version, elle nous dit « فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدْ » Et lorsque c'était le jour de Uhud, « قَالَ أَيْنَ بَنُ عَمِّي » Il a dit « Où sont mes cousins ?» Donc les gens de sa tribu. « Où sont ma tribu ?» Il s'est réveillé le matin, il savait qu'il y avait une bataille qui se préparait, que des gens partaient, mais lui pensait que, voilà, il y en a, ils vont partir, et il y en a, ils vont rester. Sauf que dans sa tribu, tout le monde est musulman, et donc tout le monde est parti. Et même les deux derniers, c'est-à-dire son père qui est vieux, et son oncle, le frère de sa mère, son oncle, qui lui aussi était vieux, finalement, ils vont rejoindre l'armée des musulmans pendant la bataille. Donc lui, il se réveille le matin, il dit « Aïna banu ammi ?» Faqalu fi Uhud. Il a dit « Où sont ma tribu ?» Il dit « Ils sont à Uhud. » Alors ensuite, il dit « Bon, et un tel ?» Donc il cherche un ami d'une autre tribu. « Et un tel ?» Fi Uhud. Il est à Uhud lui aussi. Il dit « Bon, fa aïna fulan alors ?» Et un tel alors ? On lui dit « Lui aussi, il est à Uhud. » À ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait ? Il rentre chez lui. فَلَبِسَ لَأْمَتَهُ Il met son armure. وَرَكِبَ فَرَسَهُ Il monte sur sa monture. ثُمَّ تَوَجَّهَ قِبَلَهُمْ Et il s'est dirigé vers l'armée. On n'a pas de précision qui nous indique est-ce qu'il a rejoint l'armée. Pendant que l'armée était en train d'arriver à Uhud, ou lorsqu'elle venait d'arriver, ou au début de la bataille, ou pendant le moment de la confusion. Mais il est vraisemblable de dire qu'il a probablement rejoint l'armée alors que la bataille avait déjà débuté, sûrement pendant la confusion. Pourquoi ? Parce que comme on va le voir à travers cette version, les gens ne s'attendent pas à le retrouver parmi les blessés ou parmi les morts. Ils ne s'attendent pas à le voir dans l'armée. Donc s'ils ne s'attendent pas à le voir dans l'armée, ça suppose qu'il n'a pas rejoint l'armée pendant que l'armée était en train d'aller à Uhud, ou qu'elle venait d'arriver à Uhud, mais la bataille avait déjà commencé. Et donc, il va pour rejoindre l'armée. فَلَمَّا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ قَالُوا إِلَيْكَ عَنَّا يَا عَمْرُ Et lorsque les musulmans l'ont vu arriver, donc il y a certains musulmans qui l'ont vu, qui l'ont reconnu, ils lui ont dit إِلَيْكَ عَنَّا يَا عَمْرُ Éloigne-toi, Amr, de nous. إِلَيْكَ عَنَّا يَا عَمْرُ Éloigne-toi de nous, Amr. Et lui, il comprend pourquoi on lui dit ça. On lui dit, éloigne-toi de nous, parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'il vient faire là. Et il n'est pas musulman. Alors, même s'il n'est pas musulman, il peut aider ses frères, ses cousins, etc. Mais soit on comprend dans cette parole qui est repoussante, le fait qu'ils ne veulent pas que quelqu'un qui n'est pas musulman les aide, ou alors parce que, comme c'est la confusion, on ne comprend plus rien et qu'ils le voient lui en plus, ils ne comprennent pas. Est-ce qu'il vient les aider ou est-ce qu'il vient du côté des autres ? Donc c'est comme s'il voulait lui dire « il manquait plus que toi ». Bouge ! Déjà qu'on ne comprend pas grand-chose, alors il faut aussi qu'on se pose des questions sur toi. Et lui, tout de suite, justement pour couper court à cette confusion et à ce doute et à cette ambiguïté, il va dire « inni » Amantu billah. Je crois en Allah. J'ai foi en Allah. Khalas, maintenant je suis musulman. Faqatala hatta juriha. Et il va combattre jusqu'à ce qu'il va être gravement blessé. Faqatala hatta juriha. Il va être blessé. Fahumila ila ahlihi. Et ils vont le prendre blessé. Probablement à la fin de la bataille, comme on va le voir avec la deuxième version, ils vont le prendre auprès de sa famille pour qu'on le soigne. فَحُمِلَ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَجَاءَهُ سَعْدِ بْنُ مُعَاذِ Et le compagnon Sa'd ibn Mu'adh va venir le voir. Et le compagnon Sa'd ibn Mu'adh, c'est le chef de sa tribu, le chef de la tribu des Bani Abd al-Ashhal. فجاءه سعد بن معاذ رضي الله عنه وقال لأخته سليه. Et Sa'd ibn Mu'adh va venir le voir et il va dire à sa sœur, à la sœur de Amr ibn Thabit ibn Waqsh qui est blessé, il va lui dire à sa sœur, demande à ton frère. Sali, hamiyatan li qawmik, est-ce que tu as fait ça? Ah, tu as rejoint Uhud. Dis-nous maintenant la vérité, maintenant qu'on a quitté la bataille. Est-ce que vraiment tu crois en Allah? Parce que ça l'étonne. Lui qui, tout le monde s'était converti à l'islam et il ne voulait rien savoir. Et là, il le retrouve dans la bataille de Uhud blessé. Donc il lui dit, vraiment, demande-lui maintenant qu'il nous dise la vérité. Est-ce qu'il a fait ça? Hamiyatan li qawmik, pour défendre sa tribu, pour défendre son peuple, sa patrie. Ou ghadaban li qawmihi, ou parce qu'il était en colère pour sa tribu, quand il a vu que sa tribu, tout le monde était, il risquait la mort. Ou ghadaban lillah, ou parce qu'il était en colère pour Allah, quand il a vu que les ennemis d'Allah sont venus attaquer Médine et tuer les innocents. Faqal bal ghadaban lillahi wa li rasulihi. Et il va répondre, j'ai fait ça par colère, parce que j'ai été pris de colère pour Allah et son messager. Ghadaban lillahi wa rasulihi. Famata. ودخل الجنة, c'est ce que la version elle dit. Il meurt et il rentre au paradis. وما صلى لله صلاة, et il n'a pas prié une seule prière dans sa vie. Ajib. Il meurt et il entre au paradis sans qu'il n'ait pas prié une seule prière. Alash, pourquoi? Parce qu'il se convertit à l'islam, il rejoint l'armée, il est gravement blessé, il meurt quelques instants après de cette grave blessure. Il n'a pas eu le temps de faire une seule prière dans l'islam. Ajib. Et pourtant, si vous prenez son cas quelques jours avant, quelques semaines avant, les gens le pointaient du doigt probablement. Les gens, ils devaient se dire, on désespère de lui. Juste pour l'argent, pour l'usure, il ne veut pas se convertir à l'islam. Et pourtant, il est devenu un des meilleurs compagnons. Il rencontre Allah Azza wa Jal en martyr et sans avoir commis aucun péché. Puisque dès qu'il se convertit à l'islam, tout ce qu'il a fait avant, c'est effacé. Et donc, il rentre au paradis sans avoir à rendre de compte. Et surtout, il n'a même pas, c'est bizarre de le dire, mais il n'a pas prié une seule prière et pourtant il a un des plus hauts degrés du paradis. Et il n'a pas prié une seule prière dans l'islam. Et c'est pour ça que la deuxième version, celle qui est rapportée par l'imam Ahmad, et qui a aussi été authentifiée, on nous dit que Abu Huraira, radiallahu anhu, il avait l'habitude de dire, après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « Hadithouni an rajulin, dakhal al-jannah, wa lam yusalli qat. » La deuxième version, elle commence comme ça, c'est que le compagnon Abu Huraira, il avait l'habitude de faire un genre de petit quiz, un petit dilemme aux gens autour de lui, les tabi'i. Et il leur disait, pouvez-vous me parler d'un homme qui est entré au paradis et qui n'a jamais prié de sa vie? Quand tu dis à quelqu'un qui est rentré au paradis n'a jamais prié de sa vie. Ah, c'est pas possible. Kif. Donc c'est en plus un homme connu. فإذا لم يعرفه الناس قال, et si les gens ne le connaissaient pas, si les gens ne savaient pas, قالوا من هو, ils disent mais c'est qui, de qui il s'agit, on voit pas de qui tu parles. Et là il leur disait, إنه الأصيرم, c'est الأصيرم من بني عبد الأشهل, de la tribu des بني عبد الأشهل, عمر Ibn Thabit, Ibn Waqsh. Amr, le fils de Thabit, le fils de Waqsh. Ah. Et donc, la parole d'Abu Huraira se termine ici, mais la version, elle continue. Et dans la chaîne de transmission, il y a un narrateur qui s'appelle Hussein. Et lui, il a rapporté cette version de qui? Il rapporte cette version de Mahmoud ibn Labid, Je vous ai dit la semaine dernière, quand on a parlé de la mort de Hussein ibn Jabir, que la version qui nous raconte la mort de Hussein ibn Jabir, elle était rapportée par Ibn Ishaq, et que la chaîne de transmission se termine chez qui? Elle se termine chez Mahmoud ibn Labid. Et qu'il y avait une divergence chez les savants pour savoir s'il était compagnon ou non, et que la majorité des spécialistes des chaînes de narration l'ont authentifié en disant qu'il est un compagnon. Bon, on retrouve le même personnage dans la chaîne de transmission, Mahmoud ibn Labid. Et le Hussein qui rapporte cette narration de Mahmoud ibn Labid, il dit: فسألت محمود بن لبيد قلت له j'ai demandé à Mahmoud ibn Labid, je lui ai dit كيف كان شأن الأصيرم, c'est quoi l'histoire de l'Usayrim? Parce que la seule parole qu'on a d'Abu Hayra, c'est ça. Dites-moi, c'est qui l'homme qui est entré au paradis sans avoir jamais prié une seule prière de sa vie? Et donc lui, il veut savoir c'est qui. Donc il dit, j'ai demandé à celui qui m'a rapporté la parole d'Abu Hayra, mais alors, qu'est-ce qui lui est arrivé à cet homme, Usayrim? Et là, il dit, Mahmoud ibn Labid, il m'a répondu et il a dit, Usayrim, kana ya'ba l'islam ala qawmihi. Usayrim, il refusait l'islam face à son peuple. Toute sa tribu s'était convertie, toute sa tribu n'arrêtait pas de venir le voir. Alors, qu'est-ce que tu attends? Allez-y, l'islam. Et lui, il refusait catégoriquement. كَانَ يَأْبَ الْإِسْلَامَ عَلَىٰ قَوْمِهِ. Il refusait l'islam, il ne voulait pas se convertir à l'islam. فَلَمَّا جَاءَ يَوْمُ أُحُدْ. Et lorsque le jour de Uhud est arrivé, أَسْلَمَ. Il s'est converti à l'islam. وَأَخَذَ سَيْفَهُ. Et il a pris son épée. فَغَدَ. Et il est parti. Hatta ata al-qawm. Jusqu'à ce qu'il a rejoint l'armée des musulmans. Faqatala hatta athbatathu al-jiraha. Et il s'est mis à combattre jusqu'à ce qu'il ait été gravement blessé. Hatta athbatathu al-jiraha, il a été gravement blessé. Et ensuite, la version, elle continue, elle nous dit: فبينما رجال بني عبد الأشهل يلتمسون قتلاهم في نهاية المعركة. Et les hommes de sa tribu, la tribu des Bani Abd al-Ashhal, ils se sont mis à chercher leur mort après la bataille. À la fin de la bataille, cette tribu, la tribu des Bani Abd al-Ashhal, ils cherchent. Donc ils ont regardé, il y avait les survivants, ok, et il manque des hommes. Donc il cherche dans le champ de bataille les morts et les blessés. Et il le trouve, lui, parmi les blessés. Et ils sont étonnés. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas censé participer à la bataille de Uhud, il n'était pas musulman. Les dernières nouvelles qu'ils avaient de lui, il n'était pas musulman, il n'est pas sorti pour la bataille de Uhud. Et entre-temps, comme on a dit avec les deux versions, on a compris qu'il s'est passé des choses, il a été pris par un sentiment en voyant que tout le monde était parti, et il est parti pour il s'est converti tout seul et il est parti pour défendre l'islam. Et donc ils disent, quand ils vont le voir, wallahi inna hadha lal usayrim, par Allah, nous jurons par Allah, c'est l'usayrim. Man alladhi jaa bihi, qu'est-ce qu'il l'a ramené ici, qu'est-ce qu'il fait là blessé? وَلَقَدْ تَرَكْنَاهُ وَهُوَ مُنْكِرٌ لِهَذَا الْحَدِيثِ. Alors que nous l'avons laissé à Uhud, et qu'il blâme, qu'il est contre tout ce que nous disons, contre le message de l'islam. Alors qu'est-ce qu'il fait là, blessé parmi le camp des musulmans? Donc ils ne comprennent pas. Alors ils disent, face à Alou, ils lui ont demandé, مَا الَّذِي جَاءَ بِكَ إِلَى هُنَا. Qu'est-ce qui t'a ramené ici, Usayrim? أَحَدَبًا لقومك أو رغبة في الإسلام. Est-ce que tu es venu juste pour défendre les tiens, tes proches, ta famille, ta tribu? Par tribalisme tu es là? Ou tu es venu parce que enfin tu convoites, tu recherches, tu aspires à l'islam? Et il a dit بل رغبة في الإسلام. Je suis là parce que je recherche l'islam, parce que je veux maintenant l'islam. Et il dit, فَإِنِّي آمَنْتُ بِاللَّهِ. Je crois maintenant en Allah et en son messager. فَأَسْلَمْتُ. Et je me suis converti. Je me suis soumis. Wa akhadhtu sayfi, et j'ai pris mon épée. Faqataltu hatta asabani ma asabani, et j'ai combattu jusqu'à ce qu'il m'arrive ce qu'il m'arrive, yani jusqu'à ce que je sois blessé. Falam yalbath fi aydihim hatta mat. Et il n'est resté entre les mains de sa tribu, juste quelques instants, jusqu'à quelques instants après, il est mort. Des suites de ses blessures, de sa blessure. فذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم, et ils l'ont mentionné, ils ont raconté son histoire au prophète صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم, et le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, إنه من أهل الجنة. Il fait partie des gens du paradis. Qui Al-Usayrim. Qui n'a pas prié une seule prière de sa vie, et pourtant il a le degré du martyr. Bi'ilnillahi ta'ala. Naam. Donc ne jamais juger une personne tant que, et dans un sens comme dans un autre, tant qu'il n'est pas mort. Quelqu'un, de son apparence, il peut nous montrer, masha'Allah, la droiture, etc., etc. Mais de quoi va être fait la fin de sa vie ? Allahu a'lam. Allahumma arzuqna husna al-khatima ya Rab. Et inversement, quelqu'un, il peut nous montrer que le mal, et pourtant, et combien d'histoires. Alors, on a des histoires ici de compagnons, etc., mais on a aussi des histoires de gens qu'on a connus, nous. Au dernier moment de leur vie, ils attestent et ils meurent en musulmans. Rajiv. Non. Ala kulli hal. Ça, c'est l'histoire de Al-Usayrim, qui est le fils, comme on a dit, de Thabit ibn Waqsh, le deuxième vieil homme qui est mort en même temps que Husayl ibn Jabir, ces deux vieils hommes dont on a parlé la semaine dernière. Ensuite, on peut à présent commencer à parler de la fuite des compagnons, ou plutôt de la fuite de certains compagnons. On a une version dans laquelle on nous dit. Donc je ne vais pas ramener la version parce qu'elle est longue, elle raconte toute la bataille de Uhud, mais nous c'est un paragraphe de cette version qui nous intéresse, qui parle de la fuite. Il est important de comprendre que dans la confusion, comme on l'avait dit, il y a eu trois groupes de personnes. Il y a eu les personnes qui ont fui, et ces personnes vont se diviser en deux groupes. Il y a ceux qui fuient et qui vont aller à Médine. Et à ceux qui fuient sur la montagne, qui se réfugient dans la montagne. L'autre catégorie, c'est ceux qui vont former un petit groupe de protecteurs autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui, au fur et à mesure de la bataille, ce noyau, il va grossir, il va grandir. Au début, ils ne seront que 10, 12, 7, 13, selon les versions, comme on le verra. Et il y a le troisième groupe, celui qui est pris en étau par le général de l'armée générale des idolâtres, et qui combat mais sans plus savoir ce qu'il faut faire, etc. Et beaucoup d'entre eux sont tués. Donc on va s'attacher à parler aussi aujourd'hui de ceux qui ont fui. Et ça, c'est quelque chose d'important. C'est important de s'arrêter sur ça. Et souvent, on va dépeindre, on va dire les compagnons, voilà, on s'imagine que non, c'est impossible qu'ils fuient. Ah là, c'est des êtres humains. Quand tu arrives dans cette confusion, que ta vie est en jeu, qu'il n'y a plus aucun espoir, là, tu vas mourir si tu restes sur place. Et qu'en plus, tu entends que le prophète sallam est mort. Et tu es persuadé qu'il est mort, puisque tu vois l'idolâtre qui court avec son cheval et qui dit, c'est moi qui l'ai tué, je viens de le tuer. Est-ce que ça sert encore est-ce que c'est pas mieux de sonner la retraite, de fuir, pour mieux préparer la défense? On a laissé les femmes et les enfants, ils vont aller exterminer nos femmes et nos enfants. Donc c'est pas forcément évident. Même si on a vu que d'autres compagnons, au contraire, ils ont dit, bah, si le prophète Hassan est mort, ils vont réagir de manière différente. Si le prophète Hassan est mort, à quoi ça sert pour nous de vivre encore? Allons mourir comme il est mort. Et on donnera des exemples de ces compagnons qui ont réagi de cette manière dans d'autres épisodes, Inch'Allah. Mais en tous les cas, ici, on a une version qui nous dit « وَتَفَرَّقَ عَنْهُ أَصْحَابُهُ » Au moment où Khalid ibn Walid va arriver avec la cavalerie et que il va y avoir cette confusion chez les musulmans parce qu'ils vont être pris en étau par devant, par derrière. Fatafarraqa anhu ashabuhu. On nous dit que le professeur sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons qui étaient autour de lui, ils vont s'éparpiller. Chacun par où il va partir. Il y en a, il va aller sur... Chacun par où il va partir. Fatafarraqa anhu ashabuhu. Que l'armée, elle se disperse. وَدَخَلَ بَعْضُهُمُ الْمَدِينَةِ. Certains d'entre eux sont tellement partis que c'est tout, ils sont rentrés à Médine. Sauf qui peut. وَانْطَلَقَ بَعْضُهُمْ فَوْقَ الْجَبَلِ إِلَى الصَّخْرَةِ فَقَامُوا عَلَيْهَا. Et d'autres, ils ont escaladé, ils sont montés sur la montagne et ils se sont mis sur les rochers de la montagne pour se réfugier, yani pour se protéger. Et cette version, dans son intégralité, moi je vous ai dit elle est longue, elle parle en détail de la bataille de Uhud. Si on la prend dans son intégralité, la chaîne de transmission de cette narration, elle est ce qu'on appelle mursala, c'est-à-dire elle s'arrête dans la chaîne de transmission au niveau de la génération des tabi'i. Donc on a un trou entre la génération des tabi'i et la génération de l'époque du professeur Salem. Donc on a besoin d'un ou de deux intermédiaires pour pouvoir authentifier cette narration, et on n'a pas cet intermédiaire ou ces deux intermédiaires. Souvent, les tabi'i, quand ils rapportent soit directement d'un compagnon, ou soit ils rapportent d'un autre tabi'i qui lui a entendu d'un compagnon. Et ça, il nous manque dans cette chaîne de transmission. Et pour les ulama, les savants du hadith, une chaîne de transmission, elle peut être authentique. Mais si elle s'arrête à cet endroit-là, on est obligé de dire que c'est la parole d'un tabi'i. Et lui, comme il n'a pas vécu à cette époque-là, de qui il l'a su? Est-ce que vraiment il l'a su de quelqu'un de fiable ou pas? Allahu a'lam. Donc on ne peut pas dire que la version elle est authentique. Encore une fois, comme je disais la semaine dernière, vous imaginez, on est capable d'authentifier jusque la génération qui vient juste après les compagnons. Et pourtant, malgré ça, on va dire, cette version, on ne la prend pas en compte, elle n'est pas fiable. Tellement les savants musulmans du hadith, ils étaient rigoureux. Pourquoi? Parce qu'il nous manque encore au moins une personne pour être sûr que celui qui nous raconte ces détails, il l'a vu ou il a vécu cette chose. Dans son intégralité, elle est jugée peu fiable. Par contre, ce paragraphe que je vous ai cité, les commentateurs du hadith et les spécialistes du hadith, ils disent ce paragraphe-là en particulier, il peut être considéré comme authentique. Pourquoi? Parce qu'on a d'autres versions qui viennent rapporter à peu près le même événement. Et ça, c'est ce qu'on appelle al-mutaba'at ou ce qu'on appelle shawahid dans la science du hadith. Ce qui vient témoigner pour cette version. La version, elle est faible, mais on a d'autres versions qui viennent témoigner pour elle. Regarde, moi je suis fiable et je dis la même chose que lui. C'est ça, elle vient témoigner pour. Ou le mutaba'at. On suit les versions qui parlent du même événement et on voit s'il y a le même détail. S'il y a les mêmes détails, on dit, ce détail-là dans cette version, il est pas authentique. Mais il y en a d'autres. Ils viennent s'appuyer les uns les autres, comme il est dit plusieurs fois dans plusieurs versions. Eh bien, on considère que cet événement, ce détail en particulier, comme il est ramené plusieurs fois dans plusieurs versions, il sera au minimum hassan. Il sera jugé bon. Et donc ce paragraphe qui nous dit que les compagnons ils vont s'éparpiller, ils vont se disperser et que certains vont rentrer à Médine, d'autres ils vont aller se réfugier sur la montagne, ce paragraphe il a été authentifié. On a même un verset du Coran, selon la majorité des exégètes, il parle de cet événement-là. Le verset 155 de sourate Ali Imran, où Allah Azza wa Jal dit « Inna alladhina tawallaw minkum yawma altaqa al-jam'ani, inna mastazallahum ash-shaytanu bi ba'di ma kasabu » وَلَقَدْ عَفَ اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. Ce verset, c'est le titre d'un chapitre dans l'authentique de Al-Bukhari. Al-Bukhari, il expliquait, il ramenait les hadiths, mais quelquefois, il prenait comme titre un verset et il ramenait tous les hadiths qui parlaient de ce verset. Et il a pris ce verset comme un de ses titres parmi tous les titres où il parle de la bataille de Uhud. Donc il le place parmi les événements de Uhud. Ce verset, il parle de Uhud. Et ce verset, comment les mufassirun l'expliquent? Alors, on va le traduire. Inna alladhina tawallaw minkum yawma altaqal jam'an. Ceux parmi vous, donc le verset s'adresse aux compagnons, ceux parmi vous qui ont fui, tawallaw, ils ont tourné le dos, ils sont partis. Ceux parmi vous qui sont partis, qui se sont retournés, qui ont tourné le dos, qui ont fui, yawma altaqal jam'an, le jour où les deux armées se sont rencontrées, ça parle de Uhud. Parce que dans d'autres versets, par exemple, dans Surat Al-Anfal, Yawm al-Furqan, Yawm al-Taqal Jam'an, le jour du discernement, le jour où les deux armées se sont rencontrées, là, ça parle de Badr. C'est pour ça que, quand même, on a une minorité d'exégèses, de savants du tafsir, qui nous disent le verset 155 d'Ali Imran parle aussi de Badr, puisque celui de l'Anfal, c'est Badr. Et Allah les décrit de la même manière, il dit Yawm al-Taqal Jam'an, le jour où les deux armées se sont rencontrées. Mais les autres savants, la majorité des Mufassirs, ils disent non. Le jour où les deux armées se sont rencontrées, quand c'est dans le surat Al-Anfal, ça parle de Badr, et quand c'est dans le surat Ali Imran, ça parle de Uhud. Il y en a, c'est tous les deux jours distincts, mais tous les deux jours où deux armées se sont rencontrées. Ala kulli hal. Inna alladhina tawallaw minkum. Ceux parmi vous qui ont fui, qui ont tourné le dos, qui ont fui. Yawm al-taqa al-jam'an. Le jour où les deux armées se sont rencontrées, celle des musulmans et celle des idolâtres, innama stazallahumu shaytanu bi ba'di ma kasabu. En réalité, ils n'ont été poussés à la faute qu'à cause de ce qu'ils ont commis. Et ici, les exégèses y divergent. Qu'est-ce que ce verset veut dire? Innama stazallahumu shaytan. Istazalla, le verbe istazalla en arabe, certains l'ont traduit ici par le shaitan leur a insufflé une idée, leur a donné une idée pour les pousser à la faute, bibardima kasabu. Et d'autres disent, il les a poussés à la faute à cause de ce qu'ils ont commis comme péché. C'est quoi l'explication qui est donnée par certains? Certains disent, en réalité, ça veut dire que shaitan est venu et il leur a dit dans leur tête, qu'est-ce que vous allez combattre? Vous avez commis des péchés. Rappelle-toi le péché que tu as commis tel jour et tel jour. Parce que les savants, ils disent que c'est une des méthodes de shaitan qu'il utilise avec le croyant quand il s'apprête à faire un grand bien. Il va lui rappeler ses péchés. Donc ils pensent, certains exégèses, que ce verset, il fait référence à cette méthode que le shaitan utilise contre le croyant. Au moment où il s'apprête à faire un grand bien, le shaitan n'a pas réussi à l'en empêcher. Donc il vient le voir à ce moment-là, il lui dit « Tu vas faire ça ? Honte à toi. Rappelle-toi le péché que tu as fait. » Chumaga, et t'oses maintenant, Zahma, tu pries, Zahma, tu lis le Coran, Zahma, tu fais ça, pour t'empêcher de faire le khir. Et donc les savants, ils disent, la meilleure façon de lutter contre ça, c'est quoi? C'est de faire tauba contre, de faire tauba, le repentir, dès que tu commets un péché. Parce que Shaitan, il peut utiliser cet argument que pour les péchés ou les fautes que tu as commises et pour lesquelles tu ne t'es pas repenti. Mais si tu t'es repenti, khlas, je me suis repenti à Allah. Ça fait, starfaloudla. J'arrête de penser à ça. Qu'Allah me pardonne. Mais c'est vrai que si tu as commis un péché que tu t'es jamais repenti, et comment tu vas faire le khair au moment, comme pour ses compagnons qui étaient au moment, ils vont mourir, peut-être, dans la bataille. Et donc, Shaitan, il vient, il leur dit, vous allez mourir. Vous croyez que vous allez avoir la mort en martyr? Mais non. Rappelle-toi tel péché que tu as fait, tu t'es pas repenti, peut-être qu'Allah, il t'a pas pardonné. Peut-être qu'à cause de ça, tu vas pas mourir en martyr. Eh ben oui, tu seras pas accepté en martyr. Ouais, retourne chez toi, comme ça tu auras le temps de te repentir. Shaitan, il leur dit pas fuyez, soyez lâches, ça personne ne va l'accepter. Retourne chez toi parce que tu es quelqu'un de bien, il faut que tu fasses le repentir d'abord. Khatir, Shaitan. C'est à se demander si les spécialistes du marketing de notre époque, leur professeur, c'est pas Shaitan. Les nègres qui sont capables de te vendre un truc qui va te tuer. Ah, tu vas mourir si tu le prends. Et pourtant, ils arrivent à te faire croire que Mashallah, le khir qu'il y a dedans. Bon, maintenant, ça va, par exemple, le tabac. Quelqu'un qui achète des cigarettes, il va voir sur le paquet qui fumez-tu, fumez-vous risque de faire avoir tel cancer. Ils ont tout essayé, les gens continuent à acheter. Ils ont même augmenté le prix, les gens continuent. Ah, j'ai bien. Ah oui, parce qu'il n'y a qu'une chose qui marche, c'est l'interdire tout simplement. Ala kulli hal. Ou alors la deuxième chose, que la personne elle soit plus forte que son nefs et qu'il dise stop. Mais il y a une époque, il y a quelques décennies, où les gens ils se présentaient à la télévision, c'était chez les spécialistes de la communication, ils demandaient aux gens politiques, aux hommes politiques, aux journalistes, de se présenter, de parler sur un studio à la télévision, en fumant un cigare ou une cigarette, ça passe bien. Tu vas montrer que tu es quelqu'un, etc. Ou dans les films, dans les anciens films, etc. Et il y avait de la publicité pour vendre Had le bazar aux gens. Non. Et Shaitan, c'est ça. Shaitan, il veut te faire vendre quelque chose qui est mauvais, mais il n'utilisera que des bons arguments. Il te fait croire que tu es en train de faire le bien. Tu es en train de harab. Il veut faire de toi un grand lâche et il te dit, va te repentir, va à Médine pour te repentir. Comme ça, après, plus tard, tu mourras en martyr. Là, tu peux pas. Tu t'es pas encore repenti de tous tes péchés. Il faut d'abord que tu te repentes de tous tes péchés. C'est pas wa'al comme méthode. Non. Ala kulli hal. Donc, certains savants, ils l'expliquent comme ça. D'autres savants disent, ça veut dire ce verset, il les a poussés à la faute. À quelle faute il les a poussés? Eh bien, fuir. Mais les savants, ils divergent. Ça concerne qui comme fuyard? Est-ce que ça concerne uniquement ceux qui ont quitté le monde des archers? Certains savants, ils disent que ce verset ne concerne que ceux qui ont quitté le monde des archers. Et d'autres savants, ils nous disent que ça concerne tous ceux qui ont fui, que ce soit ceux qui étaient sur le monde des archers, ou ceux qui vont fuir sur la montagne, ou qui vont rejoindre la ville de Médine. Non. Et par exemple, le compagnon Ibn Omar, radiallahu anhu, justement, dans l'authentique de Bukhari, je vous ai dit, il prend ce verset comme titre, et justement, il rapporte un hadith, un athar, d'Ibn Omar, qui vient nous dire sa position sur ce verset, et il parle de ce verset en disant ce verset, il parle de tous ceux qui ont fui. Tous ceux qui ont fui ce jour-là, peu importe, là, les archers, les autres, ils sont concernés par ce verset. Mais qu'est-ce qu'il dit juste après Allah? Wa laqad afa Allahu anhum. Mais Allah leur a pardonné. Inna Allah ghafurun halim. Parce qu'Allah, il est le pardonneur, et il est le doux. Ici, halim, on traduit par doux, mais en vérité, le savant, il dit, ça veut dire quoi ici? Ça veut dire celui qui ne sanctionne pas tout de suite. Il laisse le temps. C'est ça la douceur, c'est-à-dire il prend le temps. Allah, s'il sanctionnait tout de suite, ça veut dire que tu n'aurais pas l'occasion de te repentir. Mais Allah, il te laisse un long délai. Tu as commis le péché et il te laisse longtemps après. Pourquoi? Pour que tu aies l'occasion et plusieurs fois l'occasion de te repentir. Donc pour terminer, la version d'Ibn Omar, dans l'authentique de Bukhari, c'est une anecdote qui se passe après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cette version, et on va terminer avec cette version, elle nous dit qu'un homme, après l'assassinat de Uthman ibn Affan radiallahu anhu, donc il y a eu trois califes déjà là, le calife, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, ensuite il y a eu le calife Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, ensuite à la mort d'Abu Bakr il y a eu Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, ensuite à l'assassinat de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, on a désigné Uthman ibn Affan radiallahu anhu. Et ensuite, à l'assassinat de Uthman, on a désigné Ali. Et pendant cette époque, il y a quelqu'un qui va à la Mecque. Parmi ceux qui ont participé au trouble et à la rébellion contre Uthman ibn Affan, qui a conduit à son assassinat. Cet homme, il y a participé et il a été parmi les fauteurs de trouble. Alors, pas forcément parmi ceux qui ont tué, mais parmi ceux qui ont manifesté, qui ont assiégé la maison. Parce qu'il n'y en a que quelques-uns qui se sont introduits dans sa maison pour l'assassiner. Et tout le reste, ils n'ont fait que suivre une propagande dont ils ignoraient les tenants et les aboutissants. Et lui, il fait partie de ces gens-là. Et cet homme, il part à la Mecque pour le pèlerinage. Et il a demandé où sont les Quraysh? Je veux rencontrer des hommes de la tribu de Quraysh. On lui a dit, voilà, là-bas, il y a la tribu des Quraysh. Et il voit que cette tribu, la légende des Quraysh, ils étaient autour d'un vieil homme. C'était un compagnon qui était encore vivant, qui le fils de Omar ibn al-Khattab, Abdullah ibn Omar. Il a dit, et qui est ce vieil homme? On lui a dit, lui, c'est le compagnon Abdullah ibn Omar. Ah, et donc il est parti le voir. Il lui a dit, je veux te poser des questions, et donc devant tout le monde. Je veux te poser des questions, mais je veux une réponse sincère et honnête de ta part. Abdullah ibn Omar, il lui dit, pose tes questions, tu n'auras de nous que la vérité, bi-ibnillah. Il lui dit la première chose, dis la vérité. N'est-il pas vrai qu'on raconte que Uthman ibn Affan, à ce moment-là, il est mort, il a été assassiné, les gens, ils cherchent encore, ils creusent encore. Ils veulent se rassurer, est-ce que c'était bien ce qu'ils ont fait en se rebellant contre lui? Il dit, est-ce qu'il est vrai? On raconte que Uthman ibn Affan, radiallahu anhu, il n'a pas participé à Badr, à la bataille de Badr. Pendant que les autres compagnons ont participé à la bataille de Badr, lui est resté chez lui. C'est vrai ou c'est pas vrai? Abdullah ibn Omar, il a dit, c'est vrai, ça c'est la vérité. Il n'a pas participé à la bataille de Badr. Il dit, ah. Il dit, deuxième question. Pendant le pacte de l'Hudaybiyah, ça c'est un épisode qu'on n'a pas encore fait, on le fera plus tard. Lorsque le professeur sallam a demandé à tous les compagnons qui étaient présents de prêter serment d'allégeance pour lui, n'est-il pas vrai que tous ceux qui sont venus avec le professeur sallam dans cette expédition, ils ont tous prêté serment d'allégeance? Sauf Uthman, à ce moment-là, il ne l'a pas fait. Abdullah ibn Omar, il a dit, c'est vrai, tu dis la vérité, il ne l'a pas fait. Il dit, troisième question, pour la bataille de Uhud, n'est-il pas vrai qu'il a fait partie de ceux qui ont fui et qui sont rentrés à Médine au moment de la débandade? Il lui a dit, c'est vrai. Et là, qu'est-ce qu'il dit l'homme? Allahu Akbar. La version nous dit, il a sursauté, il a crié Allahu Akbar, c'est-à-dire voilà la vérité. Ah. Donc on avait raison, il a dit Allahu Akbar. Et ici, Abdullah ibn Omar lui dit, mais attends, écoute de moi, parce que tu as posé tes questions, maintenant il faut que tu écoutes de moi l'explication pour chaque événement. Concernant Badr, il n'y a pas participé, mais je jure par Allah que c'est le professeur sallam qui lui a demandé de rester alors qu'il voulait y participer. Pourquoi? Parce que son épouse, qui est la fille du professeur sallam, était gravement malade et elle est même morte quelques jours plus tard. Le professeur sallam, il va revenir de Badr et il va apprendre la mort de sa fille. Et donc il va dire, c'est le professeur sallam qui lui a demandé de rester pour être aux soins, au chevet de son épouse, qui est la fille du professeur sallam. Comment vous pouvez reprocher à Uthman d'avoir fait quelque chose alors qu'il ne fait que suivre l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Vous lui reprochez d'avoir obéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Donc s'il avait été à Badr, qu'est-ce que vous auriez dit? Ah, il a désobéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit deuxièmement, quand ils ont prêté serment d'allégeance à l'Hudaybiyah, mais pourquoi Uthman il n'était pas là? Chauffe l'ignorance qu'elle fait. Mais parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant ce moment-là, il campait à l'Hudaybiyah. Et il y avait des émissaires. Les Quraysh, ils envoyaient des émissaires pour négocier avec le professeur Hassan. Et le professeur Hassan, il envoyait des émissaires à la Mecque pour négocier avec eux. Comment on fait? Est-ce que vous, alors qu'on est en guerre normalement, est-ce que vous nous autorisez à rentrer à la Mecque pour faire l'Umrah ou pas? Et les Quraysh, ils disaient oui, mais avec condition. Ce qui va donner lieu au pacte de l'Hudaybiyah. Mais là, c'était encore sous négociation. Il dit à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Le professeur Hassan a envoyé Uthman ibn Affan en tant qu'émissaire à la Mecque. Mais quand il a pris serment d'allégeance, tout le monde est venu et a posé sa main, il a serré la main à chaque compagnon et qui prêtait serment d'allégeance. Chacun prêtait serment d'allégeance sous l'arbre. Quand il a terminé de prêter serment d'allégeance à tout le monde, qu'est-ce qu'il a fait le professeur sallam? Il a pris sa main gauche et il a dit, quant à cette main, c'est celle de Uthman. Donc c'est comme s'il l'avait fait. Il lui dit, quant à Uhud, oui, et il n'était pas le seul. Mais Allah Azza wa Jalla a dit à son sujet et au sujet de tous les autres qui sont partis et qui ont fui, وَلَقَدْ عَفَ اللَّهُ عَنْهُمْ. Et Allah leur a pardonné. إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. Et Allah est le pardonneur, il est le doux. Et il lui dit, Ibn Omar, à cet homme, فَخُذْهَا مَعَكَ. Prends ce que je viens de te dire avec toi. Arrête de dire, il a fait ça, sans avoir l'explication. Prends l'explication avec toi et va la transmettre à ceux qui sont comme toi et qui pensent comme toi. Non. Donc toujours faire attention. Il y en a, voilà que, à travers cette version, il y a eu une propagande. Uthman, il a fait ceci, il n'a pas fait cela, etc. Mais on ne donne qu'une partie de l'histoire. On oublie l'autre partie. Non. À la kulli hal, on a mis beaucoup de temps pour aujourd'hui, pour la séance d'aujourd'hui. Et donc, on a parlé là de ceux qui ont fui. On continuera, Inch'Allah, la semaine prochaine, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum. Pour votre attention. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk.